Vous êtes sur RFI, les 14h30 à Paris, où nous avons changé d'heure ce week-end, midi et demi en temps universel.
Afrique Midi, Nicolas Sûr.
Bonjour à toutes et à tous. Des combats hier soir dans les environs de Walikale Centre, dans l'est de la République démocratique du Congo, entre le groupe armé M23 et des combattants Wazalendo qui appuient l'armée congolaise. Ils surviennent alors que des délégations du M23 et du gouvernement congolais sont toujours à Doha, au Qatar. Le Niger annonce son retrait de la force multinationale mixte déployée dans le bassin du lac Tchad contre les groupes djihadistes. Niamey dit vouloir se concentrer sur des opérations de sécurisation de ses infrastructures pétrolières. Nous reviendrons également sur la remise en liberté ce week-end de Moussa Dadis Camara en Guinée-Conakry. Le chef de la junte au pouvoir au moment du massacre du 28 septembre 2009 a été gracié par le général Mamadi Doumbouya, officiellement pour raison de santé. Vincent Fouché, spécialiste de la Guinée et chercheur au CNRS, est notre invité. Et puis les sports, les combats de lutte pourront reprendre demain au Sénégal. Ils étaient interrompus depuis le 18 février suite à des violences en marge d'un combat qui avait conduit à la mort d'un supporter. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements ont éclaté hier soir aux alentours de Walikale Centre entre les combattants de l'AFC M23 et des miliciens Wazalendo, miliciens qui appuient les FARDC, l'armée régulière. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été rapportés par des sources locales. Aucun bilan humain n'est disponible pour le moment, mais des dégâts matériels sont signalés. Ces affrontements interviennent alors que à Doha, au Qatar, une médiation discrète se poursuit entre une délégation de Kinshasa et une autre du M23, Passion Ligodi.
C'est une médiation qui se veut silencieuse, discrète. Le Qatar, qui abrite depuis une semaine des pourparlers entre les délégations de Kinshasa et de l'AFC M23, tient à garder le contrôle sur la communication. Très peu d'informations filtrent. Doha insiste sur ces silences. Une méthode qui, selon des sources diplomatiques, a déjà permis de réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame, là où d'autres initiatives avaient échoué. Cependant, pour l'instant, les discussions n'en sont qu'au niveau des préalables. Les deux camps ont d'abord été consultés séparément avant de tenir au moins une rencontre directe. Ce sont principalement des techniciens qui composent les délégations, rapportent des sources proches de la présidence congolaise, des spécialistes du renseignement et des experts militaires. Mais du côté de l'AFC M23, la prudence est de mise. Selon d'autres sources diplomatiques, le mouvement politico-militaire redoute une répétition du scénario de juillet 2024. À l'époque, Jean Bosco Baala, alors coordonnateur du programme de désarmement, avait rencontré des délégués de l'AFC M23 en Ouganda. De retour à Kinshasa, il avait été désavoué, limogé puis placé en détention. L'AFC M23 réclame donc des garanties avant d'aller plus loin. Sur le plan pratique, les travaux n'ont pas beaucoup avancé ces derniers jours, notamment en raison de la fin du Ramadan. Ce premier round pourrait s'achever cette semaine. Un second round, cette fois consacré aux questions de fond, est déjà envisagé.
Au chapitre politique, à présent, les consultations initiées à Kinshasa par le président Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reprennent aujourd'hui. Cette option d'un gouvernement d'union nationale est refusée par l'opposition qui ne veut toujours pas participer aux consultations, alors qu'elles sont censées s'achever dans la semaine, Pascal Moulégua.
Jusqu'ici, seuls les caciques de la majorité au pouvoir ont été consultés par les conseils spéciaux du président en matière de sécurité. Mais même au sein de la majorité, il y a débat sur la démarche et les objectifs. Certains veulent conserver leur place au sein du gouvernement, alors que d'autres attendent une meilleure représentation au sein de la future équipe. Modeste Ebahati, numéro 3 du Sénat, la tête de l'un des principaux regroupements de la majorité, a insisté dès les premiers jours sur le poids de chacun dans la formation du gouvernement attendu. Il a mis en garde contre les débauchages dans un climat, je cite, « des floraisons, des flatteurs et des courtisans ». Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a demandé de ne pas s'écarter des objectifs, réunir opposition, majorité et les belligérants dans un processus plus inclusif pour la paix dans l'Est. Mais pour d'autres caciques, il faut afficher une priorité, la reconquête du territoire occupé par les M23 AFC. Les organisateurs doivent recevoir cette semaine d'autres élus de la majorité, des organisations de la société civile et des membres de l'opposition. Jusqu'ici, tous les poids lourds de l'opposition rejettent la démarche et défendent la médiation des églises pour fédérer les pays. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Sanctionné à l'international pour son soutien au M23, le Rwanda réagit après la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique, qu'il accuse d'avoir pris fait et cause pour la RDC. Kigali a annoncé jeudi l'interdiction de toute forme de coopération, partenariat et financement avec les autorités belges et ses institutions. Une interdiction à laquelle sont censées se soumettre toutes les ONG, organisations religieuses ou fondations opérant au Rwanda. Celles qui ne se plient pas à cette nouvelle directive risquent de perdre leur licence. Et elle s'inquiète, Lucie Mouillot.
On ne s'attendait pas à ce que la rupture diplomatique touche la société civile, regrette le responsable d'une organisation partenaire de la coopération belge. La majorité de ses activités sont désormais suspendues dans l'attente de nouveaux fonds pour les reprendre. Au Rwanda, l'agence de développement belge Enabel prévoyait jusqu'en 2029 un budget de 95 millions d'euros dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'urbanisation et plus de 17 millions dans des projets sur la protection sociale. Pour certaines ONG déjà impacté par la suspension mondiale des aides américaines, l'incertitude plane sur la continuité des programmes. Il est encore trop tôt pour parler des conséquences, affirme le directeur d'une organisation à la recherche de solutions auprès d'autres partenaires, mais le contexte tendu des sanctions est inquiétant, poursuit-il, craignant d'autres mesures similaires avec d'autres pays. Commentant la rupture des relations diplomatiques, le ministre rwandais des Finances, Youssouf Mourangwa, a la semaine dernière affirmé ne pas être inquiet et que le vide laissé dans les secteurs critiques sera couvert par le gouvernement. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Au Gabon, l'opposant Albert Ondo appelle ses concitoyens à se mobiliser pour que la présidentielle du 12 avril n'ait pas lieu. Alors que la campagne vient de commencer, celui qui revendique la victoire à la présidentielle de 2023 contre le président sortant de l'époque, Ali Bongo, juste avant le coup d'état de Brice Clotaire Oligui Nguema, demande aux citoyens de se positionner en utilisant des moyens démocratiques, politiques et diplomatiques. Pour Albert Ondo Ossa, le scénario de l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema est un scénario catastrophe. La continuité de l'ancien système, la tribalisation du pouvoir. Pour Albert Ondo Ossa, à 2 semaines du scrutin, il est encore temps d'agir.
Acte 1, se positionner. Vous êtes pour quelle élection? Ou vous choisissez le scénario que j'appelle vertueux, c'est l'élection de 2023. Ou choisissez le scénario catastrophe. L'acte 2, il est temps que par vous-même vous réfléchissiez. Comment faire en sorte que cette élection du 12 avril n'ait pas lieu? La démocratie nous donne un certain nombre de moyens, des marches, des sit-ins. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un vous dise de le faire, des grèves. Moi, pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai choisi d'attaquer par la diplomatie. Et je suis convaincu et sûr que cette élection n'aura pas lieu. Ou alors, elle ne sera nullement validé. C'est pas une affaire de semaine. J'ai fait une campagne contre Ali Bongo en une semaine et je l'ai battu. Alors, moi, je ne vous dis pas, allez-y provoquer les militaires pour que vous soyez tués. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il existe des moyens que nous donne la Constitution. Aucun Gabonais conséquent et sérieux ne peut accepter ce qui est en train de se passer.
Albert Ondo Ossa. Au Mali, cela fait tout juste un an aujourd'hui que la quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile signait la déclaration du 31 mars dans laquelle elles exigeaient le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 4 ans et demi après le coup d'état d'août 2020 et plusieurs reports, aucune date n'est toujours programmée pour l'organisation d'élections. La dernière échéance fixée par les autorités de transition elles-mêmes prévoyait la fin de la transition au plus tard au 26 mars 2024. Mais depuis le léger report annoncé en septembre 2023, Bamako n'a fixé aucun nouveau calendrier électoral et il n'y a aucune perspective pour en fixer un autre, déplore l'opposant en exil Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, signataire de la déclaration du 31 mars.
Nous sommes toujours dans l'impasse. Il n'y a aucune volonté de ces autorités d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel normal parce que ça ne les arrange pas. Nous avons des libertés qui sont réduites, des gens qui sont enlevés, le peuple est bâillonné. Juridiquement, la fin de la transition était actée pour le 26 mars 2024. À la date d'aujourd'hui, aucun texte ne justifie la prolongation de la transition ni le maintien des autorités de fait en place. Ce sont les armes qui font la loi. Le peuple subit.
Mais les autorités
malienne de transition ont aussi expliqué à plusieurs reprises que la sécurisation du territoire était une priorité. Est-ce que les Maliens n'attendent pas cela avant même l'organisation d'élections ?
À un moment donné, les Maliens avaient cru à la bonne foi des autorités de la transition. Aujourd'hui, c'est le peuple qui est fatigué des engagements qui ne sont pas respectés. L'argument de se cacher derrière la sécurisation du territoire est essoufflé. L'insécurité s'est gangrénée, métastasée plus qu'hier. On peut bien évidemment organiser les élections tout en sécurisant le territoire national. C'est un processus de longue haleine. Il est plus qu'urgent d'établir l'ordre constitutionnel souhaité de tous.
Des propos recueillis par David Bachet. Le Niger a annoncé samedi soir son retrait de la force multinationale mixte. Cette opération composée de 4 pays, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, lutte contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad, Boko Haram, ou ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Niamey avait déjà annoncé son retrait de la FMM au lendemain du coup d'État de juillet 2023, avant de reprendre sa coopération militaire un an plus tard. Cette fois-ci, le Niger motive sa décision par un redéploiement de ses troupes sur d'autres objectifs, Alexis Guilleux.
Officiellement, Niamey indique que son retrait de la force multinationale mixte a pour but de renforcer, je cite, la sécurisation des sites pétroliers menacés par les groupes armés. Les autorités nigériennes disent vouloir mettre l'accent sur la protection des ressources d'hydrocarbures dans la région de Difa, alors que l'oléoduc qui achemine le pétrole brut vers le Bénin est régulièrement attaqué. Plusieurs attaques ont été revendiquées par des rebelles Toubou qui demandent la libération du président renversé Mohamed Bazoum et le rétablissement de la constitution. Ces derniers mois, les sabotages se sont multiplié à la frontière avec le Nigeria, même si le sujet n'a pas été mentionné samedi soir, Niamey soupçonne Abuja de tentatives de déstabilisation et reproche aux autorités nigérianes de ne rien faire pour empêcher ces incidents le long de l'oléoduc. Mais selon plusieurs observateurs, ce retrait serait symptomatique des difficultés des forces armées nigériennes. En seulement 6 semaines, 3 attaques attribuées à Boko Haram ont ciblé leur rang, faisant 25 morts et des blessés. Ce retrait du Niger est un coup porté à la force multinationale qui signe aussi la fin des échanges d'informations sur les mouvements des djihadistes, toujours actifs et qui circulent facilement entre les frontières poreuses du bassin du lac Tchad.
Le Niger et les 2 autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina et le Mali, qui décident d'instaurer une taxe de 0,5% sur les importations des pays tiers, baptisée prélèvement confédéral AES. Cette taxe ne devrait pas concerner les pays voisins de l'UEMOA. Il s'agirait davantage du transfert d'une taxe déjà existante aux frontières extérieures de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, que les États de l'AES ont quitté en janvier. Objectif de cette taxe, financer les activités de la Confédération, Claire Fage.
Le document est signé par Assimi Goïta, le chef de la junte malienne et président de l'Alliance des États du Sahel. Il institue un prélèvement confédéral de 0,5% sur les marchandises importées des pays tiers vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette taxe ne s'appliquera pas aux marchandises des pays de l'Alliance ou en transit, ni aux marchandises d'un État membre d'une union douanière avec les pays de l'AES, précise le texte. En théorie, ne seront donc pas taxés les produits des autres pays de l'UMOA, dont les pays de l'AES font toujours partie et avec lesquels ils ont toujours une liberté de circulation des biens et des personnes, malgré leur retrait de la CEDEAO. Il s'agira plutôt du transfert d'un prélèvement douanier du même taux déjà existant aux frontières extérieures de la CEDEAO que les pays de l'AES conserveront pour le fonctionnement de l'Alliance au lieu de le restituer à l'organisation régionale ouest-africaine. Le ministre malien de l'économie a tenu à rassurer, pour les usagers maliens, ça n'impacte pas du tout le coût des denrées qui sont importées. Il n'est pas précisé si les produits du Ghana et du Nigeria, non membres de l'UMOA, subiront la taxe.
Il est 14h44 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, la fin du Ramadan dans le monde musulman, la reprise dès demain des combats de lutte au Sénégal et les préparatifs des 27e championnats d'Afrique de boxe savate. Ils auront lieu à la fin du mois à Dakar. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce lundi, la police déployée en force dans les grandes villes du Zimbabwe où les entreprises et administrations restent fermées, alors que des appels à manifester pour obtenir la démission du président Emmerson Mnangagwa ont été lancés en ce début de semaine. Ils émanent ces appels de Blaise Geza, un dissident de la ZANU-PF au pouvoir, à la tête d'un groupe de vétérans de la guerre d'indépendance. La fin du Ramadan dans le monde musulman, l'Aïd el-Fitr, c'était dès hier en Côte d'Ivoire, une journée de prière, de partage et de retrouvailles familiales. À Abidjan, le reportage d'Abdoulaziz Diallo.
Dans cette cour commune d'Abobo, l'effervescence culinaire bat son plein. Les marmites mijotent, les odeurs épicées embaument l'air. Au menu, tchep, poulet grillé, frites et couscous. Le festin se prépare avec soin. Djeneba Silla fait partie des dames au fourneau.
On envoie un peu de tout. Les beaux-frères, les maris, ils sont assis, ils mangent ensemble. Quand il y a la fête, la cour est remplie, nous sommes très 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 contents.
À la mi-journée, place au repas en famille et entre voisins. Un moment de convivialité qu'attendait avec impatience Boubacar Camara, venu spécialement de San Pedro.
Chaque année, c'est comme ça. Quand Dieu nous donne la fête, on se réunit, on partage ce qu'on a ensemble. C'est une tradition. Depuis nous, on est tout petits. Aujourd'hui, on a grandi, on a notre famille. On essaie de perpétuer cette action-là parce que c'est une action noble.
Heureux d'être entouré de ses enfants et petits-enfants, le père de famille ne cesse d'adresser des prières pour l'avenir. Amara Camara.
Toute la famille réunie, du plus petit au grand. En tout cas, la joie immense. On prie Dieu, le jeûne que nous avons fait, que Dieu n'a qu'à exercer ça. Dieu fasse que l'année prochaine, nous trouvons en bonne santé, prospérité pour tout le monde.
Une journée où spiritualité et convivialité se mêlent, clôturant le Ramadan dans la joie du partage. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur a annoncé la reprise des combats de lutte à partir du 1er avril. Ils avaient été interrompus le 18 février quand la police avait décidé de ne plus les sécuriser suite à des violences et la mort d'un supporter. À Dakar, les explications de Juliette Dubois.
La décision intervient après des concertations entre les acteurs du monde de la lutte, le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur. Une batterie de mesures a été mise en place pour éviter les violences en marge des combats, comme une jauge de vente des billets à 20 000 au lieu de 22 000 pour éviter les bousculades ou une durée limitée à 20 minutes par combat. Et puis les combats devront se dérouler plus tôt, entre 16h et 18h30, comme l'explique Malik Ngom, président du Comité national de gestion de la lutte.
Il est plus facile aux forces de l'ordre de gérer la sécurité en plein jour que quand il fait nuit. Le grand combat, si on le siffle au plus tard à 18h30, si le combat arrive à terme au maximum 19h, on doit quitter l'arène. Là, au moins, ça va leur permettre quand même de canaliser les foules.
Autre mesure, les lutteurs devront respecter des itinéraires fixés par la police pour se rendre aux arènes. Objectif, éviter les débordements et faciliter l'encadrement de leurs déplacements ainsi que ceux des fans. Pour les nombreux promoteurs de ce sport très populaire au Sénégal, la reprise des combats est un soulagement.
Il y avait pas mal de promoteurs qui avaient mis beaucoup d'argent. Certains peut-être ont fait des prêts à la banque. Ils ont donné des avances aux lutteurs. Ils ont réservé des dates. Ils ont signé des contrats avec des sponsors. Sans la tenue de ces gars-là, ils n'allaient pas quand même honorer leurs engagements.
Depuis plusieurs années, les habitants du quartier de l'arène nationale de Pékin dénoncent des agressions, affrontements et vols après chaque combat. Ils espèrent désormais un retour au calme. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
On reste à Dakar où se tiendront du 23 au 27 avril les 27e championnats d'Afrique, messieurs et dames, de boxe savate. C'est l'autre nom de la boxe française. Le Cameroun, qui est l'un des pays phares de la discipline aux côtés du Sénégal, de l'Égypte ou du Maroc, prépare déjà activement la compétition, Joël Wadem.
Depuis deux semaines, la Fédération camerounaise de boxe savate organise des regroupements pour la préparation des championnats d'Afrique. Alex Ivan Kene, champion d'Afrique en 2023 et 2024 dans la catégorie des 75 kg, vise le triplé.
Mes ambitions d'abord, c'est de conserver ma place en tant que champion d'Afrique dans ma catégorie. Nous sommes en train de bosser sincèrement dur pour que ça puisse être. Nos entraîneurs nous font travailler sur deux plans, d'un psychotechnique, de deux technico-tactiques, parce que le championnat d'Afrique aura lieu au Sénégal, sera en savate assaut, donc ce qui demande beaucoup de technique.
Les regroupements se sont déroulés dans quatre villes camerounaises, dont Yaoundé et Bafoussam. À son terme, 15 athlètes sur les 150 en compétition seront retenus pour les championnats d'Afrique. L'entraîneur national Thierry Fongan revient sur cette préparation.
On a commencé par un tournoi championnat national aller, qui sert non seulement d'ouverture de saison, mais également de sélection technique des athlètes. La sélection se poursuit ce week-end pour voir jauger la résistance des athlètes et permettre également à ceux qui sont aptes de pouvoir faire partie de la sélection nationale.
Les championnats d'Afrique de boxe savate sont qualificatifs pour les championnats du monde qui se dérouleront en juillet en Bulgarie. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Il est 13h49 à Yaoundé et c'est l'heure de l'invité d'Afrique Midi. L'ancien chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité lors du procès du massacre du 28 septembre, est sorti de prison. Il a été gracié par le général Doumbouya, le chef de l'actuelle transition, officiellement pour raison de santé. Vincent Fouché, chercheur au CNRS et spécialiste de la Guinée, est en ligne avec nous. Bonjour Vincent Fouché.
Bonjour.
Dadis gracié, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce un geste de réconciliation nationale ou un calcul politique du général Doumbouya?
La question du traitement du massacre du 28 septembre pour lequel Dadis Camara avait été condamné, au fond, a toujours été très très sensible et très politique en Guinée, parce qu'au fond, c'est une sorte de variable d'ajustement dans la relation d'une part avec les l'Occident, hein, les pays occidentaux, et d'autre part dans la relation avec l'électorat forestier de la Guinée forestière, la partie sud de la Guinée dont Dadis Camara est issu, et au fond dont il avait représenté une sorte d'espoir d'ascension politique et d'ascension socio-économique. Et au fond, on l'avait déjà vu sous Alpha Condé, on le voit maintenant avec Doumbouya. Sur le dossier, on va faire un coup à gauche, un coup à droite, parce qu'il faut tantôt ménager les partenaires occidentaux et montrer qu'on se préoccupe des droits de l'homme, et puis tantôt ménager les forestiers, que ce soit dans l'armée ou du point de vue électoral.
Pourquoi le soutien de la Guinée forestière est-il si important pour le général Doumbouya?
Bon, alors d'abord, le général Doumbouya, contrairement aux engagements qu'il avait pris au moment du coup d'État, sa candidature à sa succession se dessine de plus en plus. Première chose. Deuxième chose, la Guinée forestière, c'est une espèce de swing state en Guinée. Hein. C'est une zone électoralement qui peut basculer. On est dans un pays dans lequel on a, depuis en gros 2010, une forme de duopole entre un grand parti plutôt centré dans la communauté Peul et puis le parti du président Condé qui était très centré dans la communauté Malinké. Le général Doumbouya lui-même est Malinké, et donc pouvoir lever un peu d'enthousiasme politique ou en tout cas trouver des relais en Guinée forestière, c'est une manière d'accéder à un autre bloc électoral stratégique et important.
Il y a donc une arrière-pensée électoraliste en vue de possibles prochaines élections.
C'est sans doute un facteur. Alors l'autre aspect, hein, c'est qu'on a une présence aussi dans l'armée de forestiers. Beaucoup de forestiers étaient rentrés, notamment au moment où Dadis dirigeait la Guinée, hein, à la transition de 2008-2009 après le coup d'État de fin 2008. Et donc on a aussi cette présence militaire des forestiers. Et c'est un sujet sensible, évidemment, l'équilibre militaire. On a bien vu comment Doumbouya essayait de renforcer l'unité dont il est issu, hein, les forces spéciales. Tout ça témoigne quand même d'une forme d'inquiétude, pas illégitime compte tenu du fait que l'armée est régulièrement intervenue en Guinée dans la sphère politique. Donc il y a aussi sans doute une volonté de soigner la partie militaire de la communauté forestière.
Oui, il y a notamment aussi le cas de Claude Pivi, hein, autre figure de la junte, originaire de Guinée forestière, qui avait pris la fuite et qui lui n'a été arrêté qu'en septembre. Lui ne sera jamais jugé pour son rôle dans le massacre du 28 septembre.
Alors, Pivi a été jugé et condamné lors du procès.
Par contumace.
Et donc, il a été réarrêté au Libéria à la fin 2024. Et sans doute que, ce qui est intéressant aussi, c'est le choix qui est fait de gracier Dadis Camara et pas d'autres. Pivi est sans doute, il est considéré généralement à Conakry comme plus dangereux, car au fond, plus connecté encore, ayant gardé des contacts au sein de l'armée, alors que Dadis Camara, au fond, a été exclu pendant très longtemps, après la tentative d'assassinat dont elle était victime en 2009. Au fond, il était en exil et donc son levier au sein de l'armée a probablement été limité. Donc c'est surtout comme symbole, au fond, que Dadis intéresse Doumbouya, tandis que Pivi peut être encore perçu comme une menace.
Le retour volontaire d'exil de Dadis pour se faire juger à Conakry dans ce procès du massacre du 28 septembre avait étonné à l'époque. Pensez-vous, comme certains à Conakry, qu'il y avait un deal dès le départ pour le gracier?
On ne peut pas l'exclure. On parlait d'ailleurs déjà de ce deal à l'époque de Alpha Condé. Hein. Alpha Condé, au fond, était un peu dans la même relation avec Dadis. Hein. Finalement, il avait retardé pendant tout son temps au pouvoir la tenue du procès, plutôt que de prendre le risque de se brouiller avec la communauté forestière. Ça n'avait pas empêché Dadis en 2015 de soutenir l'opposition, hein, de soutenir Seydou d'Alain Diallo, l'opposant à Alpha Condé, considérant que Alpha Condé ne respectait pas ses engagements moraux. Donc voilà, c'est toujours ces logiques-là de négociations avec une dimension politique très forte.
Des victimes qui ont témoigné lors du procès du massacre du 28 septembre ont fait part de leur grande inquiétude après la remise en liberté de Moussa Dadis Camara. Leur inquiétude, selon vous, est-elle fondée ? Est-ce un nouveau signal en faveur de l'impunité que le général Doumbouya vient de donner ?
Alors, je ne crois pas que Dadis Camara soit en lui-même un danger, mais c'est bien évident qu'il y avait énormément d'attentes aussi bien en Guinée qu'au niveau international hein, sur ce procès. Le massacre du 28 septembre avait quand même secoué l'opinion nationale et internationale de manière considérable. Et c'était au fond, quand Doumbouya, au début de la prise de pouvoir de sa junte, a relancé le procès, ça semblait quand même un signal fort d'une volonté de Doumbouya de rompre avec l'impunité. On sait maintenant à quoi s'en tenir de ce point de vue-là.
Merci Vincent Fouché, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. C'est l'une des langues les plus rares de Côte d'Ivoire. Le Sokia ne compte plus que 20 000 locuteurs. Cette communauté originaire de Vavoie dans le centre du pays redoute donc de voir son identité s'effacer à la faveur de l'exode rural. Mais ce dialecte, pour le moment, n'est pas tombé dans l'oubli, en partie grâce à des missionnaires chrétiens qui ont contribué à le faire passer de l'oral à l'écrit. Reportage Benoît Almeras.
Ça veut dire quoi ?
Est-ce que vous allez bien ? Venez, nous allons manger. Parce que manger là, c'est le plus important d'abord.
Cette première leçon de langue Sokia, c'est Stéphane qui la donne. Ce planteur de cacao vit à Dédiafla, l'un des 13 villages de sa communauté. Les Sokia y sont aujourd'hui minoritaires car les jeunes partent, selon lui.
Ils vont se chercher pour aller s'installer en ville. Il faut dire qu'au niveau du village aussi, il n'y a plus de forêt pour travailler.
L'exode rural fait craindre la disparition de la langue jugée trop difficile au profit du gouro et du français. Pourtant, le Sokia perdure en partie grâce à un petit livre bleu, une traduction du Nouveau Testament. À l'origine, Philip Saunders, un missionnaire écossais, arrivé en pays Sokia dans les années 1970.
Il a commencé à interroger les anciens. Est-ce que vous avez l'assurance que dans 10 ans, cette langue va continuer à être parlée ?
Le pasteur Ambroise Kalou a fait partie de la douzaine de traducteurs qui ont assisté Philip Saunders.
Il a proposé que lui, il allait traduire, il allait écrire, de sorte que ça soit maintenu sur un support écrit. La suite, c'est qu'on s'est dit, si c'est traduit en Sokia, eh bien, nous serons vraiment heureux d'avoir, nous aussi, notre Nouveau Testament.
S'ensuit un travail de fourmi, 30 ans, pour transcrire plus de 2000 mots de l'oral à l'écrit à l'aide d'un alphabet spécial.
Le B, c'est dit avec BH. On dit Béli. Quand on dit Béli, on dit frère.
La langue s'est même enrichie, selon Didier Bita, l'un des traducteurs.
Berger. Comme a dit berger dans notre langue. Chez nous, c'est celui qui poursuit les brebis. Blablabla, bivouillon. Est-ce qu'il faut dire que l'Éternel est celui qui poursuit les moutons ? Non. Le bon berger, c'est Blablé Iriozoyon, celui qui veille sur les brebis. C'est vrai que la langue française ou bien anglaise, elle est belle, mais c'est encore mieux souvent de rester soi-même. Et nous le souhaitons aussi pour ceux qui vont venir après nous.
Et aujourd'hui, des habitants Sokia de Dédiafla ont l'espoir de voir leur langue survivre à l'image d'Angéline.
Si vous suivez la Bible Sokia, vous avez parlé Sokia un jour, le Sokia existe.
Benoît Almeras, Vavoie, RFI.
C'est à Vavoie que se termine cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux. Vous l'avez compris, en raison d'un mot d'ordre de grève de 2 jours contre le projet de réforme de l'audiovisuel public, notre antenne est perturbée. Merci pour votre compréhension et merci pour votre fidélité.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Maladies émergentes et infections, quel défi pour la recherche internationale.
Mercredi.
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMUA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMUA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.